Voilà le psaume 127. Hein, vous connaissez certainement ce passage, un psaume qui était chanté, psalmodié, lorsque le peuple se rendait soit au temple, soit à des cérémonies, à des fêtes. Et voilà ce qu'il est dit. Si une maison n'est pas construite, n'est pas bâtie par l'Éternel, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous couchez tard, que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Et puis Matthieu 16, verset 13, nous dit ceci. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain, et puis, quelques milliers d'années plus tard, eh bien, Jésus va faire une affirmation extraordinaire. Eh bien, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Afin que nous ne restions pas dans l'interrogation. Mais ce matin, le thème, c'est bâtir notre vie avec Jésus. En collaboration avec lui, bâtir notre vie avec Jésus. Il y a d'autres textes qui nous parlent dans la Bible, bien sûr, de cette réalité désormais, depuis cette rencontre avec Jésus. Eh bien, notre vie a changé d'identité et puis de destinée également. Nous n'avons plus comme père le diable, ça c'est un changement d'identité extraordinaire, mais désormais Dieu devient notre père. Et sur notre carte d'identité céleste, la Bible nous dit que eh bien nous sommes inscrits dans un livre de vie, c'est extraordinaire quand même. Et puis désormais, notre destinée n'est plus la même non plus. On n'est plus destiné à la colère de Dieu, mais nous sommes destinés désormais bien à vivre, comme certains l'ont dit, dans sa présence, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni larmes. Et en attendant ces choses, eh bien, Jésus nous rappelle qu'il a commencé à construire, à bâtir notre vie avec lui, bâtir notre vie avec Jésus. Alors il y a trois grands principes qu'on va revoir ce matin. Pour bâtir, il faut instruire. Pour bâtir, il faut détruire. Et puis pour bâtir, bien sûr, c'est le plus évident pour nous, il faut construire. Et il faut ces trois éléments. Hein. Il faut instruire, il faut démolir, il faut détruire, et puis il faut construire. Et en permanence dans nos vies, eh bien, Jésus utilise ces moyens pour nous faire grandir, pour nous faire croître, pour nous aider à nous développer, à nous transformer à son image. Il nous instruit, il détruit, et puis il construit. Alors, pour bâtir, bien sûr, eh bien, il faut instruire. On oublie parfois, hein, mais pour bâtir, il faut instruire. Pour grandir, il faut instruire. On connaît tous l'expression « instruire un permis de construire ». Voilà. Hein, instruire un permis de construire. On construit pas une maison comme ça, comme bon le semble. On se lève un matin, on se dit, tiens, je construis une maison. Je vais ici, cet endroit me plaît bien. Je vais construire ici, voilà. Non, ça se fait pas comme ça. Et heureusement, hein, en tout cas, on va bien sûr acheter un terrain, etc. On va déterminer. Et puis, eh bien, on va passer par un architecte, certainement, qui va déposer un permis de construire en mairie. Et puis là, eh bien, il y a un cabinet ou un service qui va bien instruire votre dossier. Il va instruire votre dossier, il va voir si le projet est viable, s'il est conforme à toutes les lois hein, que nous avons en France pour construire, etc., qu'il est conforme aux normes de sécurité. Enfin, vous connaissez peut-être ça pour vous qui avez déjà déposé un permis de construire. Et en principe, au bout de 2 mois, eh bien, on vous rend votre permis de construire. Et puis encore, il faut l'afficher, hein, parce que les voisins peuvent le contester après. Hein, donc, il y a encore un certain délai, etc. C'est la France, mais bon, c'est comme ça. Hein, on s'y fait. En tout cas, on va instruire votre permis de construire. Et il en est de même dans nos vies. Il en est de même dans nos vies. Il n'y a pas de croissance sans instruction. Il n'y a pas de croissance sans instruction. Alors, c'est quoi l'instruction? D'une manière générale, hein? Bon, il y a plusieurs définitions, mais c'est l'art d'enrichir et de former l'esprit. Pas mal, ça, hein? C'est l'action de donner des connaissances dans le but d'aider à voir clair, de distinguer entre l'essentiel et l'inutile, à préparer l'esprit à raisonner juste, ça c'est une définition du dictionnaire, hein, dans les affaires de la vie. Je me suis dit, finalement, c'est aussi le but de Dieu qu'il donne désormais à notre nouvelle vie, à avoir des instructions, avoir des clés, avoir des points de repère, voir clair dans la vie, etc., former notre esprit à raisonner juste dans les affaires de la vie. Hein, on est tous confrontés à des situations, des événements où il faut donner notre avis, il faut réfléchir, il faut dire, etc. Et là, eh bien, le Seigneur veut nous instruire, nous instruire. C'est tout le sens que Dieu veut nous donner ce matin, bâtir, et il veut nous instruire. Le Proverbe 4:13. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la parce qu'elle est ta vie. Parce qu'elle est ta vie. Proverbe 19:20. Écoute les conseils et accepte l'instruction, ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Oui, la croissance passe par l'instruction. Notre développement moral, physique, spirituel passe par l'instruction. Alors, quelles sont nos sources d'instruction? Comment Dieu peut-il nous instruire? Eh bien, il y a deux grands moyens, bien sûr, hein. Le premier, vous le savez, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein, Romains 15, 4, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance, par le réconfort que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. Et puis vous connaissez peut-être Jean 3, 16, certainement. Il y a aussi 2 Timothée 3, 16 que j'aime bien, à peu près dans le même sens. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, et le mot exact ici c'est instruire, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, pardon, de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Et ce matin, la parole de Dieu, elle demeure incontournable, elle demeure essentielle, indispensable pour s'instruire et être instruit selon les directives divines. Par exemple, dans Hébreux 6, 1, 2, hein, il est question, dans les directives, dans l'instruction, de renoncer aux œuvres mortes. Ça, c'est une instruction que Dieu nous donne. Il nous parle également de la foi en Dieu. C'est aussi une instruction d'avoir confiance en Dieu. Une instruction, l'enseignement concernant les baptêmes, les baptêmes. Alors, on parle de 3 baptêmes, hein, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et puis un baptême de souffrance, on parle pas beaucoup, hein, mais là aussi, bien, quand on est immergé dans la souffrance à cause du nom de Jésus, mais ça fait partie de l'instruction. Parfois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi l'épreuve? Ça fait partie aussi de l'instruction et de notre croissance. Et il est question de l'imposition des mains. Alors, il y a l'imposition des mains qu'on connaît pour la guérison des malades, mais aussi l'imposition des mains par rapport aux responsabilités, aux autorités qu'on peut déléguer à l'autorité. Il est question de la résurrection des morts. Il est question du jugement éternel. Tout ça fait partie de notre instruction et ça nous aide à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, on fait un parallèle ce matin, hein, pour apprendre à conduire. En principe, vous avez tous passé votre code, est-ce que vous vous souvenez, hein, de votre code? Oui, hein. Qui c'est qui s'en souvient bien? Quel est le plus jeune permis ce matin au milieu de nous? Allez. Oui, c'est toi, hein. Tu peux te lever et puis on peut t'applaudir, hein. Merci. Eh oui, eh oui. Alors, ça se passe comment maintenant, le code de la route? Je veux dire, c'est tout électronique, comment que ça se passe? Ah oui, hein. Nous, c'était encore le bon moment, c'était le stylo, ça. Et puis ils avaient un espèce de cadre pour corriger nos. Vous en souvenez, hein? Ah oui, c'était. On a évolué, hein? Et puis je suis sûr que le code a évolué aussi maintenant, hein? Je pense que on ferait plusieurs fautes. Ah oui, il y a les panneaux, il y a les trucs, etc. Voilà. Et après, bien sûr. Et puis, il me semble que t'as pas eu que le code, non? T'as eu quoi après? Eh ben, t'as eu le permis, voilà, hein? Et ça, c'est super, parce que tu as le permis, mais pour circuler, il faut commencer par le commencement, hein? Bien sûr, apprendre le code de la route. Et puis, il y a quand même quelques spécificités dans d'autres pays. Dans quel autre pays, tiens, interrogation, on roule à gauche? Alors, ça, c'en est un. Australie, c'en est un. Où? Non, c'est à droite, hein. Je sais pas. Il vaut mieux que tu roules à droite aux USA. Alors, il y a Nouvelle-Zélande, il y en a en Inde et en Indonésie. Et puis, il y en a un, je savais pas. C'est en Orient. Ça commence par un J, ça termine par un N. Non. Le Japon. Ben oui, eh oui. J'ai vérifié si un jour, hein, vous allez au Japon, vous roulez à gauche. Il faut le savoir. Parce que si vous n'êtes pas instruit et que vous allez au Japon, vous débarquez, je ne sais pas d'où, et vous louez une voiture et que vous commencez à droite, il va y avoir quelques problèmes. Il va y avoir quelques problèmes. Et il faut être instruit. Autrement, vous risquez d'avoir, eh bien, quelques soucis. Et voilà pourquoi Paul, il nous dit quand même ceci, Paul. Il commence par le commencement, il dit, mais 1 Timothée 4, 13, applique-toi à la lecture. Après, à l'exhortation, à l'enseignement. Bien sûr que Paul parle ici à Timothée d'encourager la lecture publique dans l'assemblée. Alors, c'était peut-être des cellules de maison, peu importe. Mais il commence par le commencement. Comment voulez-vous être instruit si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Je veux dire, comment voulez-vous connaître le code de la route si on n'apprend pas bien notre code? On n'invente pas les panneaux, hein? On n'invente pas les panneaux. Ils sont là. Et ensuite, Dieu dira à certains Josué, dans Josué 1,8, il va plus loin. Et les deux sont complémentaires. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a donc un lien très fort entre l'instruction et puis là, la croissance. La croissance. Et parfois, on peut être stoppé dans notre croissance, on peut tourner en rond pour toutes sortes alors de choses dans la vie. Des fois, on peut dire par ignorance. Alors, des fois, on peut être de bonne foi. Hein, je ne savais pas. Bon. Il y a des fois, on n'a pas voulu savoir. C'est déjà autre chose. Et puis, il y a des fois, on n'a pas cherché à savoir. Bon, c'est encore autre chose. L'ignorance. Et puis, parfois, pour reconnaître, il y a la désobéissance. On sait ce que Dieu veut, mais on ne le fait pas. On ne veut pas. Et là, faut pas s'étonner qu'à ce moment-là, bien, la croissance, elle est stoppée. Elle est stoppée. Parce qu'on ne suit pas l'instruction, parce qu'on ne veut pas être instruit, parce que on ne savait pas. Le psaume 71, verset 17, dit ceci: Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce ta force à la génération présente. On voit que le psalmiste ici dit que l'instruction de Dieu qu'il a reçue dès sa jeunesse lui donne assez de force, de sagesse, de clarté, eh bien, pour partager quelque chose à sa génération. Et en tant que croyant, eh bien, nous avons des choses à partager à notre génération. Hein, même si des fois on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop la réaction ou l'état d'esprit, eh bien, de cette génération. On a quand même des choses à partager. On a quand même des choses à dire. Et puis, le psaume 119, versets 99 à 100. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. Voilà. Ce matin, bien, les bienfaits de l'instruction, les bienfaits de la parole de Dieu en nous, et lisons-la, méditons-la, afin d'être instruit, d'avoir de la clairvoyance, et puis de pouvoir là aussi être dans cette vie des instruments de bénédiction. La parole de Dieu, et puis le second, bien sûr, c'est quand même le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va appliquer cette parole au bon moment pour nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer. Ça vous est tous arrivé un jour, hein. Vous lisez votre Bible pour la centième fois sur un psaume, et puis là, paf! Il y a quelque chose qui marque votre cœur. Le Saint-Esprit applique un verset, une parole, et vous dites, eh bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu, et pour la journée ou pour un événement bien spécifique, vous êtes instruit, et vous avez de la clairvoyance, vous avez de l'assurance, vous êtes paisible, parce que la parole de Dieu est devenue vivante, elle s'est révélée, parce que le Saint-Esprit, eh bien, vous l'a appliquée. Le Saint-Esprit, on l'appelle le divin pédagogue. Le pédagogue, dans la société romaine, il avait deux fonctions qui pouvaient cumuler. C'était celui d'abord qui prenait l'enfant par la main, qui le conduisait donc à l'école. Il ne le lâchait pas. Hein. Il y avait quand même des chars qui roulaient assez vite, là. Je ne sais pas s'il y avait des panneaux de vitesse. Mais voilà, il ne le lâchait pas. Hein. Et il l'amenait vraiment donc au maître d'école, etc. Et puis, il avait aussi cette fonction, il pouvait avoir d'enseigner, d'instruire l'enfant. Donc, il pouvait avoir le rôle d'accompagner l'enfant, mais aussi de l'instruire et de l'enseigner sur eh bien, les différents arts qu'on pouvait partager donc à l'époque. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Hein. Et il nous accompagne. Et parfois, il ne nous lâche pas. Hein. Nous, on aimerait bien peut-être lâcher, etc. Mais lui, eh bien, il ne nous lâche pas. Et puis, il va nous instruire. Et que va-t-il dire, le Saint-Esprit? Eh bien, vous le savez, Jean 16, 13, c'est Jésus qui dit: finalement, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle, eh bien, les paroles de Jésus, qui nous enseigne la volonté de Dieu. C'est lui le divin pédagogue. Et ainsi, la parole de Dieu et puis le Saint-Esprit sont les moyens dont Jésus se sert pour nous instruire. Et si nous sommes instruits, eh bien, Jésus bâtit avec nous. Et si nous sommes instruits, eh bien, on grandit, on évolue. Il y a une croissance, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, et ainsi, eh bien, on a l'esprit clairvoyant, et dans ce monde, pour nos vies, pour nos familles, eh bien, nous pouvons être des instruments de bénédiction. Alors, le défi quotidien, je le sais, hein, vous comme moi, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Hein. Être à l'écoute du Saint-Esprit, là, c'est tout le défi quotidien, mais en tout cas, ce matin, pour nous, eh bien, il n'y a pas de croissance sans instruction. Sans instruction. Deuxième élément, pour bâtir, il faut détruire. Ah, ça, c'est peut-être paradoxal, hein, ça n'a peut-être pas de sens comme cela, mais c'est une réalité qu'on retrouve souvent, hein, qu'on retrouve souvent, nous savons. Une définition de bâtir, et là, c'est la définition biblique, c'est de restaurer, c'est de rebâtir, c'est de réparer. Voilà. Et on sait que dans certains projets de reconstruction, hein, où on achète une vieille maison puis qu'on va retaper, ben, il va falloir passer par la case destruction, falloir détruire un vieux mur qui nous embête pour agrandir le salon salle à manger, falloir peut-être enlever un bout de charpente parce que elle est pourrie, etc. Il falloir rebâtir, peut-être refaire passer des canalisations autrement. Et là aussi, il va falloir détruire d'anciennes. Et même dans des maisons neuves, hein, eh bien, pour faire ne serait-ce que les fondations, bah, faut creuser, faut détruire un bout de terrain, etc., etc. En tout cas, oui, pour bâtir, eh bien, il faut passer parfois par la case destruction, et puis repartir ensuite sur de bonnes bases. 1 Jean 3, 8 nous dit ceci: celui qui pratique le péché est du diable. Le diable pêche dès le commencement, mais c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Amen. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et les œuvres du diable sont liées, bien sûr, au péché, à tout ce qui contribue à se révolter contre le plan de Dieu, contre le plan que Dieu a établi pour nous bâtir, pour construire. Et les œuvres du diable, eh bien, sont là pour nous empêcher, bien sûr, de grandir et de bâtir. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire. Il est venu pour détruire ses œuvres. Dans Josué 7, vous relirez peut-être le passage si vous voulez, mais ça nous parle d'un moment important dans la vie du peuple d'Israël. On est dans la conquête du pays du Canaan, et puis Dieu avait dévoué donc des villes, des objets par l'interdit. Le peuple pouvait prendre tout ce qu'il voulait, mais sauf ce que Dieu avait décrété par interdit. Et là, il y a un problème à un moment donné, c'est que, eh bien, il y a des défaites sur défaites parce que, il y a quelqu'un, un certain Achan, a pris des choses que Dieu ne voulait pas qu'il prenne, qui étaient dévouées par interdit. Ces choses devaient être détruites. Et alors, eh bien, le peuple est dans la détresse parce que finalement, eh bien, il n'a pas voulu détruire ce que Dieu avait ordonné de détruire. En l'occurrence, c'est un beau manteau de Chinéard à Caen. Il y avait 200 pièces d'argent et puis il y avait un lingot d'or. Bon, il s'est dit, personne ne le verra, personne ne le saura. Mais à cause de cela, il n'a pas voulu détruire. Eh bien, le peuple était dans la difficulté, dans la détresse. Détruire, vous le savez, ça veut dire supprimer, ça veut dire détacher, ça veut dire délier, ça veut dire se séparer, ça veut dire casser, ça veut dire démolir, ça veut dire rendre inutilisable. Dans 2 Corinthiens 6, 17, il dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et ici, deux pensées pour nous concernant cette réalité, il n'y a pas de croissance sans destruction. La première, c'est que le Seigneur nous aide à nous discipliner nous-mêmes, à nous discipliner. Discipliner dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous entendons, dans ce que nous conservons dans nos pensées, là, quelque part, dans cette malle, on parlait de la malle tout à l'heure, hein, la malle au secret, etc. Qui nous fréquentons, c'est notre discipline personnelle. Dieu ne va pas tout faire à notre place. Il y a là aussi dans nos vies, eh bien, des événements, des choses qui ont besoin d'être séparées, séparées. Hein, Hébreux 12, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est préparée. Au tir à l'arc, quand vous voyez quelqu'un tirer à l'arc, hein, en Jeux olympiques, on n'a pas l'impression, mais il y a 50 paramètres qui rentrent en ligne de compte pour que la flèche arrive au but. Voilà. La position des pieds, la position du regard, de la main, etc. Il y a 50 paramètres. Et quand un archer s'aperçoit qu'il y a des paramètres qui a besoin de corriger, on dit qu'il faut des centaines de flèches d'abord pour casser la mauvaise habitude et des centaines de flèches ensuite pour construire la bonne habitude. Donc ça fait du boulot. Ça fait du boulot. Hein? Et finalement, cette image du tir à l'arc est une bonne image parce que la Bible nous dit que le péché, finalement, c'est quand la flèche, eh bien, elle rate la cible. Elle rate la cible que Dieu lui avait proposée. Et il nous faut apprendre à nous discipliner, à détruire là aussi ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies. Alors, ça risque de prendre un certain temps, on le sait, mais ce que Dieu veut en nous, c'est cette volonté, ce désir, eh bien, d'aller dans ce sens, de se discipliner. Et puis, le deuxième point qui n'est pas toujours évident, c'est de rester vigilant. On peut parfois se faire piéger parce que finalement, on pensait que tel trait de caractère, tel comportement est détruit. On se dit, ouais, super, c'est fini, on n'en parle plus, c'est détruit. Sauf que, en réalité, ça vous est déjà peut-être arrivé, moi ça m'est arrivé, finalement, c'est anesthésié. C'est en sommeil, c'est assommé, c'est pas détruit, c'est pas. Et il suffit parfois d'une situation, d'un événement, d'une parole, quelque chose, eh bien pour et on se fait piéger, on se relâche. Il y a un bel exemple, c'est l'exemple de David et de Goliath. Vous savez ce qui s'est passé avec David et Goliath, hein? Comment David, eh bien a maîtrisé ce Goliath avec ses 5 pierres. Alors souvent certains mauvaise langue, on dit, ah, David, il a pris 5 pierres au cas où il raterait Goliath, il en avait encore 4 en réserve. Oh non, hein, c'est pas ça, hein. Non. C'est parce que Goliath, il avait 4 frères aussi, hein, des géants. Et certainement qu'il s'est dit, s'ils sont là et qu'ils sortent des rangs, hop, c'est 1 pierre pour chacun. En tout cas, entre parenthèses, eh bien, la Bible nous dit que, David, avec sa fronde, vous rappelez, qu'est-ce qu'il a fait avec sa fronde et cette pierre, David? Par rapport à Goliath. Que s'est-il passé? Ok, il a couru, il a mis de la vitesse, etc. Et puis, que s'est-il passé après? Pour Goliath? Il est tombé comment? Je veux dire, d'accord, dans quel état? Ok, mais, pourquoi il est tombé? Ouais, et quel a été l'effet physique? Raide quoi? Oui, mais tomber raide, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais tomber raide mort ou tomber autre chose, raide, non, raide assommé. Il n'est pas tombé raide mort, il est tombé raide assommé. Voilà, il a pris une pierre, etc. Et David, il a été jusqu'au bout pour se, alors le jeu de mots est facile, hein, pour se séparer, c'est qu'il a pris sa propre épée et puis il a coupé la tête. C'était fini. David ne s'est pas contenté d'assommer le géant. Il dit, bon, ça y est, c'est bon, hein. Il a pris pour son compte. Non, non, il était jusqu'au bout, il lui a tranché la tête. Et parfois, ça nous arrive, on se fait piéger. Parce qu'on pense qu'on s'est séparé, parce qu'on pense qu'on a mis de côté, parce qu'on pense que c'est fini. Mais en fait, finalement, bien, le trait de caractère n'est pas séparé. Il est en sommeil, il est anesthésié, etc. Il a pris une bonne dose, peut-être, mais à un moment donné, ça ressurgit. Et voilà pourquoi Dieu nous appelle également à rester vigilants. À rester vigilant sur notre propre caractère. En tout cas, Dieu veut nous aider à aller jusqu'au bout. Hein, quand il faut se séparer, d'aller jusqu'au bout, Seigneur, bien, aide-moi à détruire ces œuvres du diable, du péché, de la chair, hein, qui m'empêchent de grandir. 1 Thessaloniciens 1,9 dit ceci: on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Ils sont séparés. Ils ont laissé de côté. Ils ont détruit. Ils ont abandonné. Et désormais, là, eh bien, ces idoles ne sont plus réapparues dans leur propre vie. Alors oui, ce matin, eh bien, pour croître, il faut accepter parfois que Dieu détruise, voilà, détruise en nous des choses qui ne le glorifient pas. Et puis, on termine. Alors, c'est le plus facile pour nous, bien sûr, pour bâtir, hein, il faut construire. Une fois que vous avez fait place nègre, etc., ben, il faut ériger, bien sûr. Une autre définition de bâtir, c'est de construire une maison, c'est d'ériger un bâtiment, mais de construire depuis les fondations. Depuis les fondations. Et donc, dans Matthieu 7, verset 24, on a cette belle parabole, hein, qu'on connaît tous, mais qu'on va relire rapidement. Matthieu 7, 24 nous dit ceci: c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Et ici, on pourrait se rappeler que finalement, pour construire, il y a encore besoin de trois éléments fondamentaux. Hein, il faut de la qualification, il faut de la compétence et puis il faut de la connaissance. Il faut de la connaissance. La qualification, eh bien, on en parlait tout à l'heure, pour construire, en général, on fait appel alors à un architecte, un bureau d'études, des ingénieurs, des artisans, en tout cas des hommes, des femmes qui sont qualifiés, qui sont agréés, hein, qui ont reçu là aussi toutes sortes d'agréments, ils sont diplômés, heureusement, ils sont formés, etc., etc. Et c'est normal. On ne peut pas laisser comme ça une construction entre les mains de, hein, de n'importe qui. 1 Corinthiens 3,9: nous sommes la construction de Dieu. 1 Corinthiens 3,16: nous sommes le temple de Dieu. Et puis 1 Pierre 2,5 nous dit ceci: et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous construire. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Il y a une petite ou une grande différence, comme vous voulez, entre une construction normale et puis la construction du royaume de Dieu. C'est que les matériaux, le plâtre, les rails, l'électricité, etc., les fils, on leur demande pas leur avis, hein. Mais écoutez, c'est comme ça, tac, quoi, je te pose ici, puis voilà. Et d'ailleurs, ils ont rien à dire. Voilà. Par contre, dans la parole de Dieu, eh bien, il y a les questions, là aussi, que Dieu ne pourra jamais nous imposer de nous construire. Il est dit ici, laissez-vous édifier, collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborer avec la parole de Dieu pour vous laisser édifier, parce que on l'a vu tout à l'heure, si on ne veut pas, eh bien Dieu ne forcera pas. On restera, bien sûr, hein. D'ailleurs, il nous est rappelé que Dieu est qualifié, et faisons confiance à Dieu ce matin parce qu'il est le mieux à même d'être qualifié. Dans Jérémie 18, il nous est rappelé, il est le potier et nous sommes l'argile. Et entre ses mains, bien, il a toutes les qualifications, les agréments, les diplômes possibles et inimaginables pour nous former, pour nous modeler et pour nous aider à grandir. On est des pièces uniques. Je ne sais pas si vous avez déjà visité hein, des souffleurs de verre. C'est extraordinaire. Hein.
Waouh.
Et bien que ils essaient de prendre la même masse de verre, etc., puis de souffler de la même manière, chaque création, elle est unique. Elle est unique. C'est extraordinaire. Hein. Les couleurs, les formes, et chacune de ces créations est unique. On est 8 milliards en ce moment. Vous vous rendez compte? 8 milliards. Et pourtant, le divin potier qui est qualifié ce matin pour que nos vies grandissent à chacun d'entre nous, à nous de le laisser faire, à nous de le laisser agir, à nous de le laisser faire. C'est un peu moins de 8 milliards? Non? À peu près 7, 8 milliards, oui. Vous compterez tout à l'heure à midi, quoi. Bien. En tout cas, il est qualifié. Faisons confiance au Seigneur. Et puis, avec la qualification, il faut bien sûr les compétences, le savoir-faire. Hein, organiser le chantier, organiser les équipes, la gestion des équipes, c'est des tâches souvent du maître d'œuvre. Hein, c'est lui qui gère un petit peu le chantier. Il faut coordonner différents corps de métier, il faut gérer les moments de leur intervention, il faut faire le lien entre tous, etc. On commence pas un chantier en envoyant les électriciens. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Non, à mon avis, on va commencer par les maçons. Et puis souvent, dans les chantiers, alors le plâtrier attend l'électricien, qui attend le plombier, qui attend le plâtrier. Ah ben non, je peux pas ici parce que les gars ne sont pas passés. Et puis l'autre dit, ah ben non, mais moi, il faut que d'abord... Voilà, et on s'en sort pas. Et il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Et ce matin, bien, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un jour, Jésus aura une parole curieuse, étonnante à ses disciples. Il dira... J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Waouh ! J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Et qu'est-ce que Jésus veut dire ? Eh bien, tout simplement que le niveau de construction, on va dire spirituel, mental, peu importe, de leur vie, ne permettait pas encore à ses disciples de vivre certaines paroles de Jésus, de les comprendre, de les connaître. Il fallait que ses disciples grandissent un petit peu. Hein? On a tous un jour eu des questions pièges par nos enfants. Et la réponse facile, écoute, grandis un peu, puis je te le dirai. Hein? Je t'expliquerai plus tard. Bon, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Hein? Si on peut expliquer à son niveau avec les mots appropriés, c'est le mieux. Hein? On est bien d'accord, mais des fois, on s'est défilé. On dit, oh, ça, on en parlera plus tard. Voilà. Bon. Parce qu'on a estimé que l'enfant n'était pas capable, dans sa construction à ce moment-là, de supporter certaines paroles. D'ailleurs, l'auteur des Hébreux va dire à un certain moment, eh bien, que des chrétiens qui devaient être des adultes en étaient encore comme des enfants. Et il dit, ben, vous êtes encore en train de boire du lait. Moi, j'aime bien boire du lait, hein. Mais je bois pas que du lait, hein. Il y a d'autres choses. Et il dit, au lieu d'avoir de la nourriture solide, vous êtes encore en train de boire du lait. Et finalement, il y avait un problème de croissance. Alors, la croissance, elle est normale dans le développement d'un enfant, hein. Mais pour ces chrétiens qui auraient dû depuis des années être des hommes adultes, des femmes adultes, responsables et mûres, eh bien, ils étaient encore au lait spirituel. C'est-à-dire en train de toujours de demander. Alors que l'adulte, en principe, quand il est mûr, eh bien, est capable aussi de donner, hein, de communiquer, de partager. Il y a donc dans la construction, il y a une attente de progression. Il y a une progression des travaux, bien sûr, et finalement, bien, Dieu détient les compétences pour nous aider à voir nos phases de construction, afin que nous puissions supporter l'épreuve, sa parole, ses interdits. Quand on est gosse, les interdits, ah, t'auras pas de bonbons. Et hop, on tape du pied, on danse un petit coup dans le magasin. Et puis, parfois, la maman cède, mais parfois, la maman est ferme. Elle a raison. C'est un caprice. Et Dieu, parfois, bien, teste un petit peu notre vie en disant, bien non, c'est pas pour toi. C'est pas pour le moment. Il y a une progression. Philippiens 1:16, je suis persuadé, et c'est une bonne nouvelle pour nous, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ne nous comparons pas les uns les autres dans notre progression spirituelle, dans notre maturité spirituelle, dans notre construction spirituelle. Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître de la progression. Dieu est le maître d'œuvre de la construction. Et ce qu'il va exiger à un, eh bien, il ne l'exigera pas forcément à un autre. Et parfois, on est jaloux. Ah, oh, mais Seigneur, toi, tu m'as demandé ça, puis regarde celui-ci ou celle-là, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, etc. Ben, on n'est peut-être pas au même niveau de construction. Et il y aura un temps où Dieu s'occupera peut-être de son frère, cette sœur, mais ne nous comparons pas. Laissons le maître d'œuvre agir parce qu'il nous connaît. Et puis je termine, hein, dernier aspect, bien, il faut de la connaissance, bien sûr, il faut connaître les matériaux à utiliser, leurs caractéristiques, comment on peut les associer, etc. Enfin bon, je vais pas vous faire un dessin, les protocoles pour les mettre en œuvre. Et là, dans finalement 1 Corinthiens 3, 12, je vous lis pas, mais de mémoire, je vous le cite, Dieu veut construire nos vies avec des matériaux nobles. Il cite ici trois matériaux qui sont nobles, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et puis trois autres qui sont moins nobles parce qu'il va y avoir une épreuve, c'est le bois, le chaume et puis la paille, le foin. Et finalement, Dieu dit, bien, l'épreuve du feu va les faire reconnaître. L'or, l'argent, les pierres précieuses, s'il y a un petit feu, un feu normal, ça passe. Par contre, le bois, le chaume et la paille, ça va brûler. Et c'est quoi l'épreuve du feu? Wow, Seigneur, c'est quoi? C'est tout simplement ce moment où on sera devant lui. Et là, devant lui, je veux dire, tout ce qui a été bâti, construit avec notre volonté, notre intelligence, nos capacités propres, sans sa volonté, ça, ce sera comme du bois, comme du chaume, ça partira. Par contre, tout ce qui va être construit avec des matériaux nobles que Dieu nous donne, va résister. Alors, je vous en donne quelques-uns, hein, de ces matériaux nobles avec lesquels Dieu veut nous aider à construire l'or, l'argent, pierre précieuse. C'est par exemple Galates 5, 22. On l'appelle le fruit de l'esprit. Et là, vous pouvez être sûr que ce sont des matériaux qui sont nobles, qu'on va pouvoir ainsi, bien, résister, hein, à ce moment, et puis que Dieu nous accueillera, hein, de cette manière lorsque, eh bien, ces matériaux, finalement, qu'on a utilisés, hein, Galates 7, 22, vous les connaissez, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, eh bien, eux résisteront. Galates 5, et on peut les citer, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des matériaux que Dieu connaît et qu'il veut nous donner pour construire son royaume. Amen. Alors oui, ce matin, eh bien, nous voulons bâtir et continuer à bâtir avec Jésus. Et pour cela, eh bien, Jésus continuera par sa grâce en 2026. Il continuera bien sûr pour nous pour construire. Eh bien, il va nous instruire. Laissons-nous instruire. Il va détruire. Laissons, accompagnons-le dans ce que il juge nécessaire de détruire en nous. Et puis, il va nous construire. Il va nous édifier. Amen. Et ainsi, eh bien, 2026, notre construction, hein, ce sera un peu plus abouti qu'en 2025. Et jusqu'à ce qu'il vienne, là où la construction que nous sommes sera devenue parfaite. Amen. Hein. Je bâtis mon Église. C'est une promesse de Jésus. Je vous bâtis. Que le Seigneur nous aide encore ce matin à accepter, hein, sa grâce. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce! De savoir que tu veux bâtir avec nous, que tu veux bâtir notre vie, que tu veux l'édifier, que tu veux la construire, mais que tu veux aussi détruire certains aspects qui ne te glorifient pas. Alors ce matin, nous voulons, nous qui sommes des pierres vivantes, eh bien, nous laisser édifier, laisser détruire en nous tout ce qui n'est pas dans ta gloire, et puis laisser construire, laisser nous instruire. Le prophète pourra dire, Seigneur, eh bien, connais mon cœur, éprouve-moi. Et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est notre prière, Seigneur, en fin d'année. C'est notre prière pour 2026 et autres, si tu tardes. Seigneur, merci, merci pour cette assurance. Nous voulons là aussi être des bâtisseurs, des hommes et des femmes, Seigneur, qui construisent le royaume de Dieu, qui partagent cette bonne nouvelle. Aide mon frère, ma sœur, ce matin à faire ce point de chantier avec toi, savoir où nous en sommes, Seigneur, savoir quels sont tes plans. Renouvelle-nous, aide-nous à être à l'écoute du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. 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 Peut-être qu'on pourrait chanter un chant autour de la Sainte Seine encore ce matin, il me semble qu'il en reste un. Et puis, si deux ou trois frères et sœurs voulaient spontanément ce matin pour terminer cette année, nous servir la Sainte Cène, eh bien, hein, pendant qu'on va chanter un chant, eh bien, vous pourrez vous approcher sur le devant, et puis, eh bien, là aussi, préparer ce moment devant le Seigneur pour, ensemble, nous puissions encore élever, hein, le nom de Jésus. On va, ensemble, eh bien, chanter ce cantique, c'est lequel?